Chloé Mahé et bienvenue sur le podcast Le Journal du Pharmacien. Si tu souhaites en apprendre plus sur les possibilités qui s'offrent à toi et que tu recherches une bonne dose d'inspiration, tu es au bon endroit. Alors, bonne écoute. Dans cet entretien, j'ai l'honneur d'interroger Frédéric Bassi, pharmacien responsable chez Bristol-Myers Squibb, président du conseil de la section B de l'Ordre national des pharmaciens et membre de l'Académie nationale de pharmacie. Vous l'aurez compris, Frédéric Bassi est un pharmacien engagé et drivé par le challenge. Dans cette première partie d'épisode, nous revenons sur son parcours, ses missions en tant que directeur des affaires pharmaceutiques de BMS France, qui au passage fait partie du top 10 du classement mondial des entreprises pharmaceutiques, ainsi que ses responsabilités en tant que pharmacien responsable. Je vous souhaite un bon épisode. Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai l'honneur d'être en présence de Frédéric Bassi, diplômé de la faculté de pharmacie de Nantes, pharmacien responsable chez BMS et président du conseil de la section B de l'Ordre national des pharmaciens. Bonjour Frédéric, comment allez-vous ?
Bonjour Chloé, ben très bien.
Je suis vraiment ravie de vous accueillir ici.
Et ben moi, ravie de participer à votre podcast.
Merci. Alors aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur votre casquette de pharmacien affaires réglementaires et pharmacien responsable. Dans un premier temps, on va d'abord parler un peu de vous, votre carrière et comment vous en êtes arrivé là. Dans cette optique, pouvez-vous nous expliquer un peu votre parcours ?
Eh bien, mon parcours d'abord, j'ai un parcours de pharmacien. Je suis diplômé, comme vous l'avez dit, de l'Université de Nantes. Alors, il y a quand même quelques temps déjà, puisque ça date de 1983. Et après ça, j'ai eu l'opportunité de faire un troisième cycle. À l'époque, ça s'appelait un troisième cycle. Il n'y avait pas de master. Hein, un troisième cycle en finance et marketing à l'École supérieure de commerce de Nantes, aujourd'hui Audencia. Et puis, je suis rentré dans mon premier laboratoire pharmaceutique. Et donc, j'ai fait 4 laboratoires pharmaceutiques au total. Le dernier est en Bristol-Myers Squibb depuis 12 ans. Et durant ces différents laboratoires, j'ai participé, j'ai été visiteur médical, j'ai fait des accords et licences. Évidemment, au niveau de la production, j'ai été au niveau du système, ce qu'on appelle le contrôle qualité, assurance qualité. J'ai fait des affaires réglementaires, j'ai fait du marketing, des études de marché, des études stratégiques, des études économiques. Voilà, donc un grand panel, j'ai eu la chance et l'opportunité de faire un grand panel de fonctions différentes. Et depuis maintenant un peu plus de 12 ans, je suis chez Bristol-Myers Squibb, comme vous dites, en tant que pharmacien responsable et directeur exécutif des affaires pharmaceutiques et réglementaires et d'assurance qualité chez BMS.
D'accord, et du coup, à une époque où le parcours classique, c'était plutôt je rentre dans une entreprise, je gravis les échelons pour ensuite arriver à un poste de direction. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous avez choisi de changer autant de fois de laboratoire ?
Les opportunités et les challenges. S'il y a deux choses, hein, opportunités et challenges. Opportunités, c'est les postes qu'on vous propose. Hein. Je suis resté quand même pas loin de 18 années chez Bayer, qui était mon deuxième laboratoire après Upjohn. Et chez Bayer, j'ai eu l'opportunité de faire plusieurs métiers et le challenge de créer certains départements. Par exemple, le département des affaires économiques était tout nouveau à l'époque. Il n'y avait pas de market access et donc c'est moi qui, chez Bayer, ai créé ce poste-là. Donc voilà, donc des différents postes que j'ai réussi à prendre en tant que challenge. Et puis, j'ai volontairement quitté Bayer, en très bon terme, hein, en fin 2005, pour aller dans une petite boîte de biotechnologie et me charger et prendre la direction de l'ensemble des affaires réglementaires et qualité pour toute l'Europe, pour une petite boîte de biotech. Au début, on n'était que 4 pour l'Europe, quand je suis rentré dans cette société, en 2006. Et en fin 2008, je suis rentré chez Bristol-Myers Squibb, qui était venu me chercher. Donc là aussi, nouveau challenge, et à nouveau, grosse boîte en tant que telle, puisqu'à l'époque, le chiffre d'affaires dépassait le milliard d'euros en France, et on avait une filiale que vous connaissez de nom, qui s'appelle UPSA. UPSA était une des filiales et avait été intégrée totalement au sein de Bristol-Myers Squibb en France. C'était devenu qu'une division avant qu'on resépare BMS d'UPSA en 2014 et qu'on cède BMS UPSA à Taisho, un groupe japonais, en 2017.
D'accord, ok. Et d'après ce que vous me dites, au départ, il semblerait que vous destiniez plutôt à un parcours orienté business, donc avec de la market research, et puis comme vous avez dit, visiteur médical, pardon. Pourquoi vous êtes finalement redirigé vers les affaires réglementaires ?
Oh, par intérêt et challenge, c'est-à-dire qu'à un moment, c'est vrai que, et je remercie beaucoup Bayer pour ça, c'est-à-dire Bayer m'a donné l'opportunité de changer complètement mon fusil d'épaule entre-temps et d'aller à l'usine. À l'époque, Bayer avait une usine à Sens, et d'aller à cette usine à Sens, j'y allais toutes les semaines, pour apprendre une sorte de travail en termes de production et d'assurance et contrôle qualité. Je suis resté 14 mois dans cette usine à faire ce travail-là, et ce qui m'a permis d'avoir la compétence pour pouvoir devenir pharmacien responsable. Et donc Bayer m'a formé à cette compétence. Et c'est là où le point important, dans une entreprise, une fois que vous êtes rentré dans l'entreprise, ce qui compte, c'est votre comportement au sein de l'entreprise, votre intérêt à aller chercher des challenges, des nouvelles choses, etc. Il ne faut pas rester toujours bloqué. Alors, il y en a qui peuvent rester sur la même chose, c'est pas le problème. Mais si votre fort intérieur, c'est d'évoluer et de voir les autres métiers au niveau de l'industrie, l'opportunité et la chance que l'on a en tant que pharmacien, c'est que vous pouvez faire du marketing, du market access, de la pharmacovigilance, de la qualité, du réglementaire, pharmacien responsable ou autre pas mal de dirigeants d'entreprise sont parfois des pharmaciens, d'accord ? Et pourtant, aujourd'hui, ils sont dirigeants d'entreprise. Donc, il y a vraiment toute la panoplie que vous pouvez faire, en plus de du classique et la production, bien évidemment, et notamment la production en biotechnologie aujourd'hui. Donc, c'est l'avantage de votre formation historique de pharmacien qui vous permet ça.
Ok, justement, j'allais vous poser la question de savoir si c'était toujours possible aujourd'hui de changer autant, parce que quand je vous entends parler, je vois que vous avez vraiment touché un peu à tout. Et j'ai l'impression que nous, notre génération, nous, on a des masters maintenant. On a un master affaires réglementaires, un master qualité, un master market access. Du coup, est-ce que vous pensez que pour quelqu'un de ma génération, ce serait aussi simple de changer comme ça, de poste ?
Oui. Le master que vous allez choisir va vous permettre de rentrer dans l'entreprise, de faire vos armes dans l'entreprise, dans votre domaine de compétences que vous avez appris. Et au fur et à mesure, vous allez vous dire, mais ce qui va m'intéresser, c'est à un moment quelconque de votre vie, hein, de votre vie professionnelle, ça va être de dire, eh bien, j'ai envie de voir autre chose. Mais, je sais pas, moi, la formation médicale m'intéresse, la pharmacovigilance m'excite, la production, j'aimerais bien voir comment ça se passe, et ou aller sur le terrain pour devenir commercial. Pourquoi pas ? Et c'est votre comportement et votre volonté à prendre des nouveaux challenges qui va vous définir au sein d'entreprise. Donc, le diplôme ou les diplômes avec vos masters, c'est la porte d'entrée. Mais après, c'est à vous hein, de continuer à grandir. Ça ne va pas tomber du ciel. C'est à vous de vous mettre dans le système en disant « qu'est-ce que je veux pour le futur ?»
D'accord.
C'est vrai, et je tiens à préciser, qu'en tant que PR, lui, je suis un peu atypique, voilà, au regard de mon parcours. Mais j'ai un parcours que j'envie parce que j'ai pu le faire et que je souhaiterais qu'un grand nombre de collègues au sein des entreprises puissent faire.
C'est vrai que ça donne envie. Du coup, on va revenir plus tard sur votre casquette de pharmacien responsable. Mais j'aimerais bien revenir d'abord à la source et savoir pourquoi vous avez choisi de devenir pharmacien.
C'est une bonne question. C'est une bonne question. Alors, si je vous disais, c'est pas par défaut, mais j'allais dire, après avoir fait à l'époque un bac C, vous savez, c'était comme ça que ça se nommait, hein. J'ai l'impression de remonter à la guerre, mais c'est comme ça que ça se nommait. Après avoir fait un bac C, on me voyait plutôt au niveau du bac, à aller faire maths sup, maths spé, puis ingénieur, comme on va dire, entre guillemets, comme mon père, quoi. Mais in fine, je crois que il y a eu un trop plein de maths. Et de fait, de ce trop plein de maths, le gros avantage des études de pharmacie, c'est que, à l'époque, il y avait quand même pas mal de maths et de physique en première année, et même en deuxième année, quand j'ai commencé. Et donc, c'était quand même intéressant pour moi. Et en même temps, ça ouvrait beaucoup d'esprit. Parce que la chimie était intéressante, les maths étaient intéressants. Puis j'ai rencontré des doyens à la faculté de Nantes qui étaient très très ouverts. Donc là aussi, c'était qui m'ont permis de faire autre chose que tout ça. Donc, je ne vais pas rentrer en détail, mais voilà. Donc ça a été excitant. C'est vraiment des formations qui sont très larges. Et comme elles sont très larges, ça vous permet d'embrasser vraiment la science dans une vision panoramique. Et c'est ça qui est intéressant. Et vraiment, les années que j'ai passées à la fac, d'excellentes années en termes de formation.
C'est vrai que c'est plus trop le cas de nos jours, on a moins de maths et de physique, mais en tout cas c'est toujours, comme vous dites, c'est vraiment très très large, et moi c'est ça que j'aime dans notre formation, c'est que vraiment on touche à tout, quoi. Donc c'est bien pour des profils pluridisciplinaires.
Tout à fait, exactement.
Alors du coup, nous allons maintenant passer à la seconde partie de l'entretien, à savoir votre métier de pharmacien en affaires réglementaires. Pouvez-vous nous expliquer en quelques mots ce que sont les affaires réglementaires ?
Alors, les affaires réglementaires, je préfère parler d'affaires pharmaceutiques, d'accord ? Et pour vous montrer, chez Bristol Myers Squibb, on dit plutôt regulatory science, d'accord ? On n'aime pas le mot affaires.
Ok, justement, voilà. C'était ma prochaine question. Quelle est la différence entre affaires réglementaires et affaires
intéressant, parce que, en fait, on doit quand même avoir une certaine capacité à comprendre les médicaments, même si on est derrière des dossiers, on doit intégrer les nouveaux process, on doit intégrer pas mal de choses. Effectivement, c'est la base du réglementaire, donc c'est à la base de textes, d'accord? De textes qui sont des textes européens ou des textes nationaux pour déposer les AMM, mais ce sont des textes. Mais on préfère pharmaceutique, parce que dans pharmaceutique, ça englobe également pour moi toute la partie de la qualité. Et la qualité, c'est la qualité et l'efficacité et la sécurité du médicament, qui sont les triptyques qu'en tant que pharmacien, vous devez respecter pour pouvoir mettre un médicament sur le marché. Donc tout ça, on doit le vérifier. L'efficacité, la sécurité et la qualité du produit. Donc, en termes d'affaires pharmaceutiques, tout dépend de l'entreprise qui régit tout ça. Il y a le champ des possibles, en fait. Alors, c'est vrai que chez Bristol Myers Squibb, la particularité, c'est que les équipes pharmaceutiques que je gère vont gérer la totalité du cheminement du médicament depuis les essais cliniques jusqu'à, je vais dire entre guillemets, la fin du médicament. C'est-à-dire le retrait du médicament lorsqu'il est trop vieux et qu'il n'y a plus de vente et on décide d'arrêter l'AMM. Donc, c'est toute la soumission des dossiers, les variations qui sont liées à ces dossiers-là, en relation avec les autorités, toute la soumission et le suivi des essais cliniques, les dossiers d'essais cliniques, parce qu'il faut avoir les autorisations, relation avec les autorités également, la validation et la vérification de toute la partie activité d'information et de promotion, mais également de formation de l'ensemble du personnel, que ce soit en qualité ou pas en qualité, et ce qu'on appelle bien évidemment le suivi des lots, la production des lots, l'assurance qualité, le contrôle qualité sur les lots avec des équipes dédiées pour ça. Voilà, donc c'est tout ça, ça va être les affaires pharmaceutiques. Et après, effectivement, il y a des laboratoires qui vont plus saucissonner ces différentes missions, fonctions. D'autres laboratoires vont essayer de garder une découpe non pas par métier, par fonction, mais par aire thérapeutique. Ça dépend du système, du laboratoire dans lequel vous êtes.
D'accord, donc les affaires pharmaceutiques, en fait, ça comprend le réglementaire et la qualité.
Oui, oui, pour moi, oui.
D'accord, et donc vous avez une expertise dans les deux, qualité.
Je l'ai acquis.
Ok. Et justement, je voulais savoir aussi qu'est-ce qui se cache derrière le terme de Executive Director Regulatory Science chez BMS, parce que moi, quand j'ai lu ça, ça ne m'a pas trop parlé.
Non, mais c'est normal parce que c'est des termes américains, c'est anglo-saxon, d'accord ? C'est l'Executive Director, pour les anglo-saxons, c'est juste avant le président.
Ok, d'accord.
Vous avez le VP, alors il n'y a pas beaucoup de VP hein, chez BMS. Ensuite, vous avez le président. Donc, le président, généralement, c'est le GM d'un laboratoire. Et puis, il y a les exécutifs directeurs, qui sont plus forts que les directeurs.
D'accord. Donc, en gros, en clair, vous vous occupez de... Enfin, vous êtes président des affaires pharmaceutiques de BMS.
Je suis le chef, entre guillemets, de toutes les affaires pharmaceutiques du groupe BMS en France. Hein, on est bien en France, qui regroupe les deux sociétés établissements pharmaceutiques, BMS d'un côté et Celgene de l'autre côté. Moi, je suis le chef.
Ok. Donc, du coup, j'imagine que vous avez des relations à l'international...
Bien sûr, il y a des relations très fortes et très conséquentes avec la partie européenne, puisque vous savez que dans l'Europe, on a une agence européenne, donc on a des produits en AMM dites centralisées et des produits en AMM dites nationales. Donc on a les relations avec l'agence nationale et l'agence européenne. L'agence européenne se fait via, évidemment, des personnes qui sont là spécifiquement, ça, qui sont basées pour nous à ce jour en Belgique. Et puis il y en a d'autres ailleurs que la Belgique, c'est pour ça que je dis ça comme ça. Et puis vous avez évidemment de grosses relations avec ce qu'on appelle vulgairement dans nos entreprises le worldwide ou le global, qui pour nous, société américaine, est basée aux États-Unis, donc à côté de Princeton. Donc, aux États-Unis, effectivement, il y a des relations. Et avant la crise du Covid, j'allais aux États-Unis, on va dire, deux fois par an, pour des réunions importantes. Mais aujourd'hui, ça ne se fait plus que par visio, de façon régulière.
Et du coup, comment vous vous êtes adapté, vous, justement, à tout, au fait, à la dématérialisation de tout l'espace de travail?
Dans les grosses sociétés comme les nôtres, on est assez équipés, déjà. Alors, on a tâtonné un petit peu là avec le système, mais globalement, on se débrouille et on est assez équipés avec des systèmes, avec des pare-feux. On travaille beaucoup sur Teams, pour ne pas le nommer. Alors, parfois, il y a aussi du Zoom dans d'autres sociétés, ou du WebEx, parce que ça aussi. Donc, on commence à connaître cet environnement. On a des signatures électroniques, on travaille par des systèmes avec, comme vous savez, des SharePoint. Donc, on est vraiment avec des... Alors, il faut une IT, une informatique extrêmement développée pour nous permettre justement d'être toujours à la pointe de la sécurité informatique tout en nous permettant de travailler correctement. Voilà. Mais effectivement, depuis le Covid, comme vous le dites, nous sommes en télétravail quasiment à 80% de notre temps et par semaine, je vais au bureau.
Okay.
Mais il n'y a quasiment personne.
Oui. Alors du coup, on va maintenant passer à la troisième et dernière partie de l'entretien et parler un petit peu de votre casquette de pharmacien responsable. Pouvez-vous nous définir ce qui se cache derrière le poste de pharmacien responsable?
Alors, pharmacien responsable, c'est une fonction qui n'a rien à voir avec le salariat qui est le directeur des affaires pharmaceutiques ou directeur qualité ou quoi que ce soit, d'accord? Donc là, c'est ce qu'on appelle un mandat social. Vous avez dû voir en école de commerce. Donc là, pour Bristol Myers Squibb, c'est une SARL, c'est un peu particulier quand même. Mais il y a deux gérants, donc le directeur général, entre vulgairement le GM qu'on appelle comme ça, et le pharmacien responsable. Donc le pharmacien responsable est par définition toujours un mandataire social, dirigeant d'entreprise. Ça, c'est la loi qui veut ça. Et dans sa définition de fonction, a une particularité, c'est qu'elle est inscrite dans le code de la santé publique. Si vous voulez voir la définition de fonction du pharmacien responsable, elle est dans un article qui s'appelle l'article R5124-36 du code de la santé publique. Donc il y a un pharmacien responsable par entité juridique, d'accord, et il a des missions en tant que mandataire qui sont proprement définies. Et toutes les missions tournent autour de la sécurité, de l'efficacité, de la qualité des médicaments. Voilà. Tout ce qui tourne autour de ça lui revient de droit pour prendre en tant que mandataire social toutes les décisions nécessaires jusqu'au rappel de l'eau, toutes les décisions nécessaires sur la vie d'un médicament. Donc il peut s'opposer à tout, mais il peut autoriser tout. En accord avec le code de la santé publique, bien évidemment, parce que c'est du pénal. Ça veut dire qu'il supporte, bien évidemment, toute la difficulté, il supporte la responsabilité pénale de la faute de l'entreprise en tant que mandataire. Ça, c'est la définition du pharmacien responsable. On est aujourd'hui 440 pharmaciens responsables en France.
D'accord.
Et à peu près, comme il y a des intérimaires, il y a à peu près, on va dire, environ 750 personnes en France qui ont la qualification, parce que c'est une qualification particulière qui doit être réalisée et autorisée par l'ordre des pharmaciens pour être pharmacien responsable.
D'accord, donc vous partagez du coup la responsabilité pénale et civile avec le JM.
Oui, sachant que plus particulièrement sur l'ensemble de tout ce qui trait aux médicaments. Je suis le seul responsable de la bonne mise en place et adéquation du code de la santé publique.
Donc imaginons si demain il y a un problème sur un médicament, du coup vous êtes responsable concrètement.
Concrètement, oui.
C'est une énorme responsabilité.
Voilà, bah oui. S'il y a un rappel de l'eau, je vais discuter avec l'agence. Voilà. Les problèmes de rupture, c'est moi qui discute avec l'agence. Donc, vendredi dernier, j'ai eu deux discussions avec l'agence sur des trucs plutôt positifs, on va dire ça comme ça, parce que c'était l'obtention d'autorisation temporaire d'utilisation sur des médicaments. Voilà, donc je participe à tout ça. Alors, je ne suis pas, vous pouvez imaginer que quand on a un portefeuille de produits, je ne suis pas le spécialiste de chaque produit, ce n'est pas possible. D'accord? Donc, je m'appuie sur une équipe et tous les pharmaciens responsables s'appuient sur des équipes, soit qu'ils ont en direct dans leur responsabilité, soit des équipes qui sont en dotted line, on va appeler ça comme ça vulgairement parlant, mais vous savez ce que c'est, dans d'autres départements.
Et du coup, vous êtes obligé d'être sur site.
Alors, on a réussi à faire assouplir un petit peu ça après les discussions avec l'agence, évidemment, à la NSM. Légalement, oui, il y a une obligation à être sur site, mais après, vous pouvez faire une analyse de risque de l'ensemble des opérations pharmaceutiques pour déterminer quelles opérations sont tellement risquées qu'un pharmacien doit être sur site, pas forcément le PR, ou quelles actions il n'y a pas besoin. Je prends un exemple concret. Si vous avez un site de production et que sur le site de production, vous traitez des produits stupéfiants, par exemple de la morphine base pure à 99,9%, la pesée de cette morphine doit être faite véritablement en présence effective d'un pharmacien adjoint inscrit à l'ordre qui a délégation du pharmacien responsable. Ou alors c'est le pharmacien responsable qui s'y colle. D'accord, il peut pas être partout. Mais il y aura forcément un pharmacien présent pour la pesée. D'accord. Donc voilà, ça, l'analyse de risque va être là. Ou alors de l'autre côté, la signature pour autoriser un document, il n'y a peut-être pas besoin d'être au siège social pour le faire. Ça peut peut-être se faire à distance avec les outils informatiques.
Okay. Oui.
Voilà. Mmh. Donc faut faire une analyse de risque entre les différents éléments.
Ok. Du coup, c'est vous qui désignez les pharmaciens intérimaires.
Alors, vous avez l'obligation, faut pas confondre pharmacien responsable intérimaire et les pharmaciens adjoints. Les pharmaciens responsables intérimaires ont la même qualification que le pharmacien responsable et ils prennent la responsabilité pénale quand le pharmacien responsable part en vacances. Parce que sans ça, pour le pharmacien responsable, c'est 365 jours par an. Donc, vous imaginez bien qu'on a quand même envie de prendre un petit peu de vacances. Pour prendre des vacances, on a un pharmacien responsable intérimaire. Ils sont nommés et ils sont autorisés par le procès-verbal du conseil d'administration de l'entreprise. D'accord ? Et ils vont prendre la responsabilité quand le pharmacien responsable est absent. On lui demande, je suis absent tel jour, est-ce que tu peux me remplacer ? Oui, je peux. Et ben voilà, dorénavant, du tel jour à tel jour, c'est toi qui prends la responsabilité.
Okay.
Les pharmaciens adjoints, c'est tous les autres pharmaciens qui vont faire des opérations pharmaceutiques, libération de l'eau, signature de documents, etc. et qui vont pour ce faire recevoir une délégation pharmaceutique, soit hiérarchique ou non, de la part du pharmacien responsable. Et ils sont tous inscrits à l'ordre parce qu'ils peuvent être poursuivis, évidemment, déontologiquement par l'ordre.
D'accord. Et du coup, est-ce qu'il y a des prérequis, des conditions à remplir pour devenir pharmacien responsable ? En d'autres termes, qui peut devenir pharmacien responsable ?
Alors, tout pharmacien peut devenir pharmacien responsable. La condition, c'est prévu dans le Code de la santé publique là aussi, vous voyez, c'est extrêmement organisé et paramétré. Il faut prouver que vous avez acquis une expérience. Alors, ça dépend du type de pharmacien responsable que vous voulez être. Mais pour prendre l'exemple en termes de production, faire une activité de contrôle qualité et de assurance qualité sur les principes actifs et les produits finis pendant au moins 6 mois. Globalement, ça veut dire 6 mois dans une usine, en production, en qualité, en assurance. D'accord ? Au moins 6 mois à l'usine. Et si vous faites ça, le pharmacien responsable de l'usine va attester sur l'honneur que vous avez fait cette formation. Et cette formation, avec un CV et puis quelques explications évidemment complémentaires, vont être envoyées à l'ordre. Et une commission à l'ordre, la section B de l'ordre industriel, va regarder le dossier et va dire « on vous accepte en tant que pharmacien responsable, on valide votre expérience ».
Ok.
Voilà, c'est l'exemple.
Parce que nous, dans nos études, on a vu que c'était plutôt le pharmacien affaires réglementaires ou pharmacien qualité qui était habilité. Mais du coup, imaginons si on est pharmacien market access et qu'on fait ces 6 mois sur site de production, est-ce qu'on peut prétendre à devenir pharmacien responsable ?
Oui. Alors attention, la seule condition après, derrière, une fois que vous êtes pharmacien responsable, votre contrat de travail doit être en accord avec votre mission objet social. Si votre mission est pharmacien responsable, votre contrat de travail ne peut pas être directeur du marketing.
D'accord.
Okay. Voilà, parce qu'il y a une antinomie entre les deux, puisque le pharmacien responsable va contrôler le marketing. Donc, vous ne pouvez pas être les deux.
D'accord.
Donc, ça veut dire que vous devez avoir un contrat de travail derrière qui soit plutôt directeur d'affaires réglementaires, directeur d'affaires qualité, directeur d'assurance qualité, etc.
D'accord. Et du coup, quelle a été la situation la plus complexe que vous avez eu à gérer en tant que pharmacien responsable?
Mon Dieu, j'en ai eu pas mal à gérer. Non, j'en ai eu beaucoup à gérer. J'ai eu des situations complexes positives et des situations complexes négatives. Voilà. Donc, les négatives, c'est quand vous devez prendre une décision d'un rappel de l'eau. C'est jamais simple et jamais facile à faire. Et c'est une décision où la NSM, l'agence du médicament, va vous poser la question, mais Monsieur Bassi, quelle est votre position? Donc à un instant T, vous devez prendre une position, et un rappel de l'eau, c'est oui ou non, ça peut pas être peut-être. On rappelle ou on rappelle pas. Ça peut pas être je rappelle peut-être. Et vous devez prendre cette décision en fonction des éléments que vous avez à votre disposition à l'époque, donc sur un faisceau de preuves, éventuellement, si vous n'avez pas tous les éléments. Et parfois, il faut aller très vite. J'ai eu des décisions de rappel de l'eau bien il y a une dizaine d'années, avec des morceaux de verre dans un flacon d'un produit. En fait, une fois que j'ai su la chose, j'ai pris la décision de rappeler tous les lots qui avaient été produits pendant cette période-là en 2 heures. En 2 heures, j'ai pris la décision de rappeler le lot. Pourquoi? Parce que si vous ingérez un morceau de verre et que ça vous lacère l'œsophage, voire l'estomac, les personnes ont plus beaucoup de chance à vivre derrière. Donc, vous voyez, c'est plein de choses comme ça qu'il faut faire. Donc, il y a des cas où vous prenez une décision plus rapide, des cas où vous prenez une décision un petit peu plus lentement. Et après, il y a beaucoup de décisions. On parle beaucoup des ruptures. C'est jamais facile de négocier et de trouver des situations qui permettent de. On a parlé du Covid. Côté positif, en discutant avec l'agence du médicament et la société savante, on a fait modifier en l'espace de 15 jours ce qu'on appelle les conditions de prescription et de délivrance d'un médicament dans le cadre du projet, pour que ce médicament ne soit plus seulement infusé, une infusion intraveineuse à l'hôpital, mais qu'il puisse être infusé en ville. Alors que depuis les 10 dernières années, il a toujours été exclusivement en réserve hospitalière. Là, en 15 jours, pour éviter que les patients aillent à l'hôpital, des patients un peu fragilisés, et qui restent plutôt à domicile, il a fallu tout changer à l'administration. On l'a fait en 15 jours. Vous voyez des côtés positifs, des côtés
Ok, et du coup, quand il y a un rappel de l'eau, c'est envoi d'une notification dans toutes les officines de France.
Le rappel de l'eau aujourd'hui se fait par un système automatique, hein, qui est un système qu'on appelle le dossier pharmaceutique rappel, et qui envoie une notification automatique. Et c'est depuis mon ordinateur que j'appuie sur le bouton envoyer. C'est moi qui appuie sur le bouton envoyer. Et en l'espace de 15 minutes, la totalité des 22 000 officines de France et de Navarre, plus les représentants des territoires d'outre-mer, c'est-à-dire la Polynésie et la Nouvelle-Calédonie, plus la totalité des PUI, donc des pharmacies à usage intérieur des établissements de santé, reçoivent sur leur système informatique le message d'alerte, avec pour les officines en plus un blocage de tous les ordinateurs et les postes de travail des officines. Pour
Ouais.
qu'ils attestent
Ouais.
qu'ils ont bien vu le message, qu'ils puissent se débloquer.
Ouais, je connais parce que moi je travaille en officine, du coup
Voilà.
je les reçois ces alertes et effectivement on peut pas utiliser l'ordinateur tant qu'on n'a pas
Attester.
regardé la notice, ouais.
Oui, voilà.
Et du coup, est-ce que vous auriez un conseil à donner aux futurs pharmaciens qui souhaitent devenir pharmacien responsable?
Ben écoutez, faites le nécessaire et venez. C'est extrêmement enrichissant. D'abord, c'est très enrichissant parce que alors, je dis pas qu'il faut faire le poste quand on a 30 ans, attention, hein, parce que c'est un poste à grosse responsabilité. Prenez le temps de la carrière, mais à un moment quelconque de votre carrière, quand vous vous sentez prêt, faites le nécessaire pour avoir la validation d'expérience, comme ça au moins c'est fait. À tout moment, vous pouvez demander la validation d'expérience auprès de l'ordre, même si vous n'êtes pas pharmacien responsable quelques semaines ou mois après, c'est pas le problème. La validation d'expérience, une fois qu'elle est validée, c'est à vie. D'accord? Faites-le le plus vite possible. Et c'est un poste extrêmement intéressant, puisque c'est un poste qui vous permet d'être directement au niveau du conseil d'administration d'entreprise, donc dans les comités exécutifs ou dans les conseils d'administration d'entreprise, et donc de voir et de balayer la totalité du fonctionnement de l'entreprise. Et pas seulement la partie dite pharmaceutique, mais vous avez toute la totalité de l'entreprise vos yeux et vous participez à l'organe de gestion de l'entreprise. Donc c'est extrêmement intéressant. Extrêmement intéressant.
Ok, bah merci beaucoup d'avoir accepté cette interview. C'était vraiment un plaisir pour moi de vous recevoir aujourd'hui. Et du coup, bah, je vais vous laisser le mot de la fin. Est-ce que vous avez une inspiration positive à nous partager?
Eh bien, vous avez la chance d'être dans un monde extrêmement positif avec une science qui évolue à vitesse grand V. J'ai vu arriver, alors notamment chez Bristol Myers Squibb, les immunothérapies dans le cancer avec un de nos premiers produits il y a maintenant une dizaine d'années. C'était déjà une première évolution, un changement de paradigme. Après, vous avez maintenant la biotechnologie qui arrive, les CAR-T qui se mettent en place largement. Vous avez le champ des possibles. C'est extrêmement intéressant. C'est une révolution. Imaginez-vous qu'il y a quelques années, quelqu'un qui avait un mélanome mourrait au bout de 6 mois ou 1 an, et aujourd'hui, on a des gens qui meurent après. Donc, vous avez le champ des possibles des médicaments, en gardant éthique et déontologie, et ça, c'est le devoir du pharmacien.
Et voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère que tu as apprécié. N'hésite pas à nous rejoindre sur la page Instagram du podcast, Le Journal du Pharmacien, et à me dire ce que tu en as pensé. À bientôt sur Le Journal du Pharmacien.